Bonjour à tous. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour notre temps de culte ce matin. C'est toujours une joie de se retrouver ici. La semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, nous avons eu un week-end d'église. Est-ce que vous vous en rappelez ? Super. Et on avait parlé notamment de l'importance de la prière collective. Et le matin, le dimanche matin en particulier, on avait le culte de famille, et Luc avait utilisé une image qui était celle d'un morceau de bois en feu. Vous vous en rappelez ? Et ce morceau de bois qui était enflammé, eh bien, était capable de brûler encore plus intensément lorsqu'il était rassemblé avec d'autres morceaux de bois. Pour former, eh bien, tous ces morceaux de bois ensemble, un véritable brasier, ce qui était une illustration de la puissance qui réside dans la prière collective, puisque Dieu est au milieu de nous. Amen. Et ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler également d'un brasier. Alors, le contexte est un petit peu différent, mais on va voir tout ça ensemble. D'accord ? Super. Tant mieux, hein, que vous soyez d'accord. Ça m'aurait un petit peu embêté du contraire. Alors, parlons un petit peu du contexte. On est à l'époque du roi Akab et de la reine Jézabel. Et Akab, eh bien, c'est un roi qui règne sur ce qu'on appelle à ce moment-là le royaume d'Israël, qui est constitué des tribus du nord. Et au sud, nous avons une tribu qui est le royaume de Juda, puisqu'à cette époque, eh bien, finalement, une partie des tribus se sont séparées des autres. Et le royaume de Juda, lui, il est gouverné par les descendants de David. Et ce roi Akab, malheureusement, eh bien, il fait partie des rois qui se sont détournés de l'Éternel. Pour un tas de raisons, l'influence de son épouse Jézabel, les pratiques des rois qui ont été avant lui. Et Akab va se mettre à soutenir les cultes idolâtres dans tout le pays. Il y a eu des veaux d'or qui ont été érigés par ses prédécesseurs, et le culte de Baal et des Astartés a pris place. Baal, Astarté, ce sont des idoles. La reine Jézabel, elle a fait même très fort, elle est allée jusqu'à exterminer tous les prêtres restés fidèles à l'Éternel. Il y a eu quelques exceptions. On apprend par la suite de l'histoire que certains ont échappé à ce massacre, mais beaucoup ont péri en fait sous ce règne de Akab et Jézabel. Et nous sommes aussi à l'époque où Dieu a choisi d'utiliser un prophète qui est devenu l'ennemi public numéro 1. Est-ce que vous voyez de qui je parle ? Il s'agit du prophète Élie. Ça fait 3 ans que Dieu a annoncé par la bouche de Élie, dans le premier livre des Rois, au chapitre 17 et au verset 1, voici ce que dit Élie. « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et quand tout le monde a constaté qu'effectivement, il n'y avait plus de pluie, et qu'en plus Élie était introuvable, il est devenu l'homme le plus recherché de tout le pays. Et au bout de 3 ans, 3 ans où Élie est introuvable, même si nous, quand on lit la Bible, on sait un petit peu ce qui s'est passé hein, dans ces 3 ans, eh bien, Dieu vient s'adresser à nouveau à Élie de cette manière. On est au chapitre suivant, au chapitre 18 et au premier verset. Dieu dit à Élie, « Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Alors qu'est-ce qu'a fait Élie ? Il a obéi ou pas ? Oui, hein, il a obéi. Élie a obéi au Seigneur. Et voici ce qui se passe ensuite. On lit la suite du texte, on arrive au verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. Et aussi, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. On vient de le lire. Élie interpelle le peuple sur sa situation idolâtre. Ils ne peuvent pas dire qu'ils suivent l'Éternel et en même temps dire qu'ils suivent les idoles. Ça n'aurait pas de sens. Ils doivent faire un choix. Et nous avons, nous aussi, ce choix à faire. On ne peut pas à la fois dire que nous marchons avec l'Éternel, que nous sommes fidèles à Dieu, et en même temps entretenir des idoles dans nos vies. Alors peut-être que quelqu'un ce matin pourrait dire « Mais moi, j'ai pas de statue chez moi. Puis je me prosterne pas devant des statues. C'est pas ma pratique. » Une idole, c'est pas forcément une statue. Une idole, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu. Dieu demande à être à la première place dans nos vies. Et tout ce qui viendrait prendre cette première place à la place de Dieu est une idole. Ce n'est pas forcément des choses physiques. Ça peut aussi. Les idoles modernes, on en connaît, hein. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être un sport, un loisir, un objet, une personne. Une personne peut devenir une idole. Une philosophie, un engagement politique. On peut imaginer plein de choses. Alors vraiment, que Dieu examine nos cœurs et nous révèle si dans nos vies, une idole a pris place. Et face à la déclaration que Élie fait, on voit que le peuple il reste silencieux. Ni aveu, ni repentance. Alors pour une fois, on ne va pas imiter ce peuple. Au contraire, choisissons d'avoir une attitude différente. Si Dieu nous révèle que dans nos vies, il y a des idoles, alors demandons pardon à Dieu. Redonnons-lui la première place dans notre vie. Et s'il y a des idoles, eh bien, Dieu nous appelle à nous en éloigner. C'est ce que Dieu veut, parce que c'est à cause des idoles qu'il y a la sécheresse depuis 3 ans. Et des fois, il peut y avoir cette sécheresse aussi dans nos vies qui a pris place. Mais Dieu a des promesses. C'est que la pluie de bénédiction arrive. Elle arrive pour le peuple d'Israël, mais elle peut arriver pour nous aussi. Amen. Alors revenons à Élie. Élie, il est plein d'assurance. Alors il va lancer un défi. On est dans 1 Roi, chapitre 18, verset 22. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. » Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant « C'est bien !» Heureusement. Élie dit au prophète de Baal « Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous connaissez la suite de l'histoire. Est-ce que Baal va répondre par le feu à ses 450 prophètes. On va le lire. Parce que c'est vrai que c'est un passage. Il n'y a pas tant de passages où il y a de l'humour dans la Bible, Mais ce passage-là, c'est quand même quelque chose. On est au verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions, avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. J'ai envie de dire, quel spectacle ! Là, il y a une démonstration physique qui se fait, c'est quand même extraordinaire. C'est 450 personnes hein, qui font tout ça en même temps. Mais on l'a lu, il n'y a aucune puissance dans leur dévotion. Tout ce qu'ils font est complètement vain, parce qu'une idole, ben, ça n'a aucun pouvoir. Cela me fait penser à ces hommes dont parle l'apôtre Paul plusieurs centaines d'années plus tard. Il en parle à Timothée, dans la lettre à Timothée, la deuxième lettre à Timothée, au verset 3, au chapitre 3, verset 5. Il dit que ces hommes, ayant l'apparence de la piété, en renie ce qui en fait la force. Et Paul est très clair hein, sur l'attitude à avoir sur ces personnes qui ont une apparence, mais qui en réalité, ben, dans leur cœur, ils ne sont pas du tout fidèles à l'Éternel. Paul dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Et quand on voit l'attitude des prophètes de Baal par rapport à Élie, eh bien, on se rend compte que l'attitude est complètement différente. Radicalement. Avec Élie, c'est pas un spectacle. Mais il y a plusieurs étapes, on va le voir ensemble, qui sont assez symboliques et qui nous rappellent finalement notre rencontre avec le Seigneur et notre marche avec le Seigneur. Voici comment ça commence. On est au verset 30, toujours dans 1 Roi chapitre 18. Élie dit alors à tout le peuple « Approchez-vous de moi ». Que fit le peuple ? Tout le peuple s'approcha de lui. C'est vraiment cette première étape. Approchons-nous de Dieu. Dieu désire se manifester au milieu de son peuple. Et notre Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est un Dieu proche de nous, qui veut vivre au milieu de nous. Quand on s'est éloigné de lui, quand on s'est approché une première fois, puis qu'on s'est éloigné, des fois, on a l'impression que notre relation avec le Seigneur, elle est brisée. On a l'impression qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Comme si on était parti un peu trop loin, en fin de compte. Pourtant, Dieu est partout. Et Dieu est là, à côté de nous. Mais il nous laisse le choix. Dieu ne veut pas s'imposer dans notre vie. Mais il est comme ce Père que l'on voit dans la parabole du Fils prodigue que Jésus nous raconte dans Luc 15. Qu'est-ce qu'il fait ce Père ? Eh bien, il espère avec patience que nous retournions vers lui. Amen. Je le disais, il n'est pas question d'un spectacle, comme essaient de le faire croire les prophètes de Baal. Avec Dieu, ce n'est pas un spectacle, c'est une véritable relation que nous construisons. Une proximité, une intimité. D'ailleurs, c'est le sens du mot qui est utilisé dans l'hébreu, qui a donné dans notre texte « approchez-vous ». C'est vraiment cette notion d'intimité, de relation personnelle. Ce n'est pas juste « je suis venu physiquement à côté de toi ». Non, c'est au-delà de ça, c'est plus fort que ça. Dans le Nouveau Testament, on voit que Jacques nous rappelle que c'est vraiment ce que Dieu attend. Dans Jacques, au chapitre 4, verset 8, il dit, vous connaissez ce verset, j'en suis convaincu, « Approchez-vous de Dieu, exactement, et il s'approchera de vous. » quand on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Et c'est vraiment cette deuxième étape, en fait, qui se produit également avec Élie. Découvrons-le ensemble, cette deuxième étape. On est dans la suite du verset 30. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom ». Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. L'autel, c'est le symbole de la présence de Dieu. La relation avec Dieu est réparée, restaurée. Mais ça va plus loin que ça. Il est question des 12 pierres. Et le texte nous le dit, hein, ces 12 pierres symbolisent les 12 tribus des fils de Jacob. On l'a évoqué rapidement en introduction. À l'époque, il y a une séparation entre les tribus d'Israël. Il y a la tribu de Juda d'un côté et les tribus du Nord de l'autre. En prenant ces 12 pierres ensemble, symboliquement, c'est aussi la réparation des relations entre ces 12 tribus que proclame Élie. Et c'est ça qui est bon aussi, c'est que quand notre relation avec Dieu est restaurée, notre relation avec les autres peuvent l'être aussi. Il y a vraiment un lien entre notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres êtres humains. Jésus nous le rappelle, hein, c'est un texte qu'on avait d'ailleurs évoqué la semaine dernière, dans Matthieu chapitre 22 et verset 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est Jésus qui parle. « C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » C'est vraiment une joie de savoir que Dieu vient guérir aussi nos relations humaines. Amen. En plus de ça, ces 12 pierres, elles nous parlent aussi d'identité. Dieu rappelle au peuple qu'ils sont les fils de Jacob. C'est une manière de leur rappeler, en fin de compte, que les promesses faites à Jacob, elles sont valables pour eux aussi, et que leur identité n'est pas donnée par un être humain, mais elle est donnée par Dieu. Car Jacob a reçu un nouveau nom, le nom d'Israël. Et c'est Dieu qui lui a donné ce nom-là. Leur identité est donc celle que Dieu leur a donnée. Mais c'est la même chose pour nous. De la même manière, Dieu nous rappelle aujourd'hui que notre identité, elle n'est pas liée à un travail. Notre identité, elle n'est pas liée à un caractère. Notre identité, elle n'est pas liée à une orientation culturelle, politique ou religieuse. Notre identité n'est pas celle que des êtres humains nous donnent. Notre identité, c'est celle que Dieu nous donne. Notre identité, elle est en Christ. Nous sommes fils et filles de Dieu, co-héritiers avec Christ, appelés à régner à ses côtés. Amen. Et toutes ces pierres, elles sont rassemblées ensemble pour devenir l'autel de Dieu, symbole de la présence de Dieu. Ensemble, ils forment le peuple élu de Dieu. Tout comme ensemble, nous aussi, nous formons l'Église. Nous sommes chacun des pierres vivantes qui formons tous ensemble l'Église. C'est une image que nous rappelle l'apôtre Pierre à la fin du Nouveau Testament. On est dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 5. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » L'apôtre Paul, qui a écrit dans des périodes proches, dit aussi dans 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 16, « Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. Quand nous rencontrons Dieu, nous avons cette relation d'intimité avec lui. Mais il y a une suite logique à tout ça. C'est quoi la suite logique? Je vous donne un coup de pouce. La semaine dernière, tout le monde était là ? Qu'est-ce qu'il y avait l'après-midi, le dimanche après-midi ? Des baptêmes. La suite logique, ben, c'est le baptême d'eau. Vous allez me dire, mais quel rapport avec Élie ? On va le lire ensemble. Vous allez voir, ça va devenir évident dans quelques instants. On est dans 1 Roi, chapitre 18, verset 32. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Alors nous, on n'a pas un fossé, on a un baptistère. Il est encore ouvert d'ailleurs. Mais c'est littéralement un baptême d'eau dont il est question. Tout est recouvert par l'eau. On trouve à plusieurs reprises dans la Bible ce symbole de l'eau qui revient pour nous parler du baptême. C'est une image assez récurrente. L'apôtre Pierre y fait référence en parlant notamment de l'eau du déluge à l'époque de Noé. Donc là, on est dans la Genèse, bien avant tout ça. Et Pierre dit, dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 21, « Cette eau était une figure du baptême. » Déjà, Pierre nous parle de ce côté symbolique de l'eau. Cette eau, donc, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. On peut clairement faire le parallèle avec ce défi lancé par Élie. Maintenant que la relation avec Dieu est restaurée, nous avons placé notre confiance en lui. Nous savons que le salut nous est offert grâce au sacrifice de Jésus et que nous accédons à la vie éternelle parce que nous sommes appelés à ressusciter avec lui. Tout le monde est d'accord avec ça ? Nous sommes appelés à passer par les eaux du baptême afin de prendre un engagement de bonne conscience envers Dieu, c'est ce que nous dit Pierre. Cet engagement à lui être fidèle. Alors, ça ne veut pas dire être parfait. Personne n'est parfait, sauf Jésus. Et personne n'est à l'abri non plus d'une chute. Mais cela signifie que nous avons fait un choix, que nous avons pris position. Nous ne voulons pas suivre les idoles de ce monde, nous voulons suivre Dieu. Amen. On a vu une première étape, approchons-nous de Dieu. On a vu une deuxième étape, c'est Dieu qui s'approche de nous. La troisième étape, c'était notre baptême d'eau. C'est quoi la quatrième étape ? Il manque quelque chose là, si on s'arrête là. Je l'ai entendu. Le baptême de feu, bien sûr. C'est l'étape 4. Mais quel rapport avec Élie ? Là, je pense que vous avez un peu plus l'intuition. Mais avant d'arriver à Élie, j'aimerais parler d'une autre personne qui s'appelle Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste ? Parce qu'il y a une prophétie qui explique que Élie va revenir. C'est ce que les Juifs attendent à l'époque de Jésus. Ils attendent que Élie revienne comme précurseur de l'arrivée du Messie. Et Jésus explique à ses disciples que, en fait, ce Élie qui devait revenir, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va dire une chose très intéressante. Dans Matthieu, au chapitre 3, verset 11, voici ce qu'il dit. « Moi, je vous baptise d'eau. » C'est ce qu'on vient de voir avec Élie. « Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Amen. Alors revenons à Élie pour voir comment ça se matérialise tout ça. On est dans 1 Roi au chapitre 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent : C'est l'Éternel qui est Dieu ! C'est l'Éternel qui est Dieu ! Amen. C'est une image de ce baptême de feu évoqué par Jean-Baptiste. C'est Dieu, le seul vrai Dieu, qui fait descendre le feu. Et nous sommes appelés à voir ce feu descendre. Nous sommes appelés à vivre cette manifestation de Dieu dans notre vie. Nous sommes appelés à vivre ce baptême de feu. Alors on l'a vu, c'est vrai, il y a plusieurs étapes. Et Élie et le peuple ne sont pas restés passifs au fur et à mesure de ces étapes. Mais on voit que cette action de Dieu, elle est déterminante. Elle est incontournable. Alors recherchons à vivre cette manifestation. Recherchons à voir le feu de Dieu descendre. Élie l'a demandé dans sa prière. On peut le demander, nous aussi, dans nos prières, que Dieu vraiment fasse descendre ce feu. D'ailleurs, on voit que le feu, parce qu'on pourrait se dire, mais moi, je ne veux pas être brûlé. Mais ce feu, il a brûlé, oui, c'est vrai, l'offrande. Mais le feu n'a pas brûlé ni Élie, ni le peuple. Ils n'ont pas été blessés, mais ce feu qui est descendu, c'est devenu aussi un feu nouveau dans leur cœur. Un feu nouveau qui s'est mis à brûler en eux, comme un zèle renouvelé par et pour l'Éternel. C'est ce qui s'est passé lors de la Pentecôte, avec les disciples de Jésus. C'est un passage qu'on connaît par cœur, mais qui nous montre vraiment cela. Dans Actes 2, chapitre 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le baptême de feu, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est notre immersion dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la Bible, on lui donne plein de noms. On l'appelle aussi Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, tout ça, c'est la même chose. Et Dieu nous appelle à vivre ce baptême, que nos yeux soient capables de voir ces langues de feu ou pas, que ça reste une manifestation invisible avec nos yeux humains, ou que ça devienne visible. Je crois qu'on peut voir des choses avec nos yeux aussi. Et vivre cette immersion dans le Saint-Esprit et renouveler cette immersion autant que possible, mais c'est tellement bien, c'est tellement bon. On doit aspirer à ça. C'est une dimension dans laquelle Dieu nous appelle à entrer en tant que disciples de Christ. Amen. L'apôtre Paul nous dit aussi ceci lorsqu'il écrit aux Corinthiens, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19. Luc, d'ailleurs, en a parlé pendant la louange tout à l'heure. « Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Dieu veut vraiment faire habiter son esprit en nous. Il veut que nous soyons remplis de sa présence. Ce n'est pas une façon de parler. Ce n'est pas une image comme ça. Non, c'est réel, c'est concret. C'est vraiment ce que Dieu veut. Car nous sommes nous-mêmes, chacun d'entre nous et tous ensemble, le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'en arrive à la conclusion. Et pour conclure, j'aimerais, avant de voir ce qui s'est passé du côté de Élie, vous citer ce que Paul a dit à l'un de ses disciples, qui s'appelle Tite, dans Tite au chapitre 3, verset 3. Je trouve que ces versets résument assez bien la situation. Donc voici ce que Paul écrit. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Autrement dit, on était loin de Dieu. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, c'est la promesse de bénédiction à venir que Dieu nous donne. Et cette promesse, il y en avait une aussi pour les Hébreux, pour ce peuple d'Israël. Alors revenons un petit peu à Élie pour comprendre un petit peu si cette promesse, elle s'est accomplie. Mais c'était quoi déjà la promesse, vous vous rappelez ? La pluie, exactement. C'est ce que Dieu avait révélé à Élie au tout début du chapitre quand il disait « Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et cette promesse, à votre avis, est-ce qu'elle s'est accomplie ? Amen, c'est vrai. On va le lire, c'est au verset 45. C'est écrit « En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. » Amen. Dieu accomplit toujours ses promesses. Sa pluie est tombée. Depuis 3 ans qu'il avait la sécheresse, la pluie est venue. Dieu nous promet la vie éternelle. C'est sa promesse. Et nous sommes appelés à cette vie éternelle. Avec Christ. Amen. Alors baissons nos têtes ce matin. Seigneur Jésus, merci mon Dieu vraiment pour cette grâce, pour cette promesse que tu places devant nous, cette promesse de la vie éternelle. Merci mon Dieu parce que tu as mis devant nous toute l'explication, comment venir auprès de toi, Seigneur. Il suffit de s'approcher de toi. Ah Seigneur, quelle grâce. Merci parce que quand nous nous approchons de toi, Seigneur, tu es là, tu es déjà là et tu t'approches de nous. Tu viens, Seigneur, nous prendre dans tes bras comme ce bon Père qui nous accepte, qui nous accueille, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour le sacrifice de Christ à la croix, Seigneur Jésus. Merci pour ces symboles que tu as permis que nous ayons, Seigneur, le baptême d'eau, pour nous engager, Seigneur, devant toi. Merci, mon Dieu, pour cette grâce. Merci pour tous ceux qui sont déjà passés par ces eaux du baptême, Seigneur. Permets que tous ceux qui ne sont pas encore passés par là, Seigneur, puissent vivre cette intimité avec toi et désirer s'engager avec toi, Seigneur. Seigneur, tu promets aussi ce baptême de feu. Il a été annoncé, ce baptême du Saint-Esprit, ce feu qui descend sur nous pour nous remplir, pour que ton esprit habite en nous, se manifeste au travers de nous, Seigneur. Nous aspirons à cela aussi. Nous aspirons à cette réalité céleste. Seigneur, nous aspirons à ce que ta présence vienne dans ces lieux, vienne dans notre vie. Seigneur, viens nous inspirer, viens nous conduire, Seigneur éternel. Oui, que ton Saint-Esprit descende. Remplisse chacun de mes frères et sœurs, que tous ceux qui n'ont jamais vécu cela, Seigneur, puissent le vivre, puissent le réclamer, Seigneur. Mon Dieu, oui, nous croyons que tu le fais aujourd'hui, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, ta promesse s'accomplit toujours. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie éternelle, mon Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur, mon Dieu. Amen.